Bonjour à tous, il est midi ici à Paris et à Alger.
Karine Bellicha.
Une, les relations se tendent encore un peu plus entre Paris et Alger, malgré une nouvelle déclaration des autorités françaises qui assure vouloir tendre la main aux dirigeants algériens. Mais la menace d'une suspension des accords bilatéraux sur l'immigration plane toujours. La riposte des Européens s'organise après une nouvelle salve de Donald Trump. Le Premier ministre britannique va tenter de faire l'intermédiaire et de faciliter le dialogue entre Washington et les 27 avant une visite de Volodymyr Zelensky outre-Atlantique qui s'annonce décisive pour l'avenir de l'Ukraine. Enfin, quelles conséquences pour l'Olympique de Marseille et son dirigeant Pablo Longoria, suspendu pour 15 matchs. Baptiste Leduc nous éclairera à la fin de ce journal. La porte-parole du gouvernement français le promet, Paris tend la main à Alger. Hier, François Bayrou assurait ne pas vouloir d'escalade. Pourtant, le Premier ministre a demandé à Alger de réexaminer la totalité des accords sur l'immigration qui le lie à la France en fixant un ultimatum de 6 semaines, sans quoi Paris se verrait dans l'obligation de les remettre totalement en cause. Les relations entre les deux pays se sont encore détériorées après l'attaque au couteau perpétrée par un Algérien samedi à Mulhouse. L'homme était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et Alger a refusé 14 fois son expulsion. Pour le sénateur socialiste Rachid Temal, les relations France-Algérie méritent une autre méthode. François Bayrou aurait cédé à la pression du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, partisan d'une ligne sécuritaire. On écoute Rachid Temal.
Je ne crois pas qu'on puisse résumer les relations entre deux États souverains, notamment l'Algérie et la France, par juste la question migratoire qui existe. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, nos entreprises françaises en vendent chaque année pour près de 5 milliards d'euros de marchandises à l'Algérie. Je rappelle que nous avons des centaines et centaines d'entreprises françaises installées en Algérie qui ont des salariés, qui font du chiffre d'affaires et qui vendent. Je pourrais comme ça ajouter plein d'autres domaines. La façon dont opère le gouvernement actuel en France n'est pas la bonne méthode. Je ne crois pas que ce déballage permanent d'un discours anti-Algérie fasse progresser. Quand la politique intérieure prend en otage les relations internationales, je crois que c'est toujours dangereux. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de sortir par l'eau cette situation-là. Je crois qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole. Je l'invite à redire en France et en Algérie la nécessité d'avoir des relations apaisées entre les deux États. Je crois qu'il est besoin de dire cela et je crois qu'il est important que les deux chefs d'État se parlent dorénavant.
Le sénateur socialiste Rachid Temal, invité d'Arnaud Pontus dans la matinale d'RFI. La menace était déjà brandie, elle est désormais chiffrée. Donald Trump prévoit d'augmenter de 25% les droits de douane pour les produits européens, avec une justification élégante dans les termes. La construction européenne a été faite pour entuber les États-Unis, oubliant la réalité historique et la promesse des Européens de dépasser les conflits mondiaux sur le continent et d'assurer sa prospérité. Les 27 sont donc considérés comme un simple adversaire sur le plan commercial. Dans ce contexte, après Emmanuel Macron, la tâche de Keir Starmer à Washington est immense. Le Premier ministre britannique a pour ambition de faire le pont entre les Américains et les 27, un exercice de haute voltige, surtout sur la question ukrainienne. À son retour de Washington, Keir Starmer va réunir plusieurs dirigeants à Londres ce week-end pour de nouveau faire le point avec les Européens, avant lui-même d'aller rencontrer Donald Trump. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, fait escale en Irlande à la mi-journée. Alors qu'à Paris, le salon de l'agriculture bat son plein, en Alsace, dans l'est de la France, des agriculteurs et des collectivités territoriales travaille main dans la main pour que les légumineuses fassent leur grand retour dans les champs et dans les assiettes. Les Européens en consomment trop peu. Pourtant, les légumes secs font partie des solutions face au changement climatique, à la perte de la biodiversité et aux difficultés des agriculteurs. Le reportage est signé Lucille Gimbert.
Face à nous, ici, là où on se trouve, donc juste à côté du hangar, une dizaine d'années en arrière, c'est vrai qu'on voyait du maïs à perte de vue. Et depuis 2021 maintenant, on a lancé Graines d'Alsace, donc la culture de légumineuses.
C'est la sécheresse de 2020 qui a poussé Grégory Axer et ses trois associés agriculteurs à se diversifier. Car dans les terres caillouteuses de la plaine d'Alsace, le maïs ne pousse qu'à grand renfort d'irrigation. Les lentilles, pois chiches et quinoa qu'ils ont introduits dans leur rotation de culture nécessitent, eux, de pomper beaucoup moins d'eau dans la nappe.
On le voit déjà rien que sur le gasoil pour nos groupes qui alimentent les irrigations, hein, où là, il y a besoin de déjà moins de gasoil.
Autre bénéfice économique et environnemental, ils achètent moins d'engrais d'azote de synthèse, car les légumineuses fixent naturellement l'azote dans le sol.
L'azote dans le sol, c'est un petit peu comme ce que nous, on a le midi et le soir dans l'assiette. C'est vraiment ce qui donne à manger à la plante. Et ce gain-là, dû aux légumineuses, on va retrouver ça 2 voire 3 ans encore après sur la même parcelle.
Les agences locales de l'eau et de la santé se réjouissent aussi qu'ils cultivent sans pesticides. Même si leurs prix sont donc plus élevés que ceux des légumes secs importés, les clients répondent présents.
2023, on était sur 7 tonnes de vendus à l'année. 2024, on a frôlé les 20 tonnes. C'est bon, chef ?
Avec l'aide de collectivités territoriales, les quatre compères ont même monté la filière légumineuse dans la région. Une dizaine d'agriculteurs les ont déjà rejoints.
Alors là, on ouvre le sac, on va le mettre sur la balance et Olivier va commencer à remplir. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir nos 5 kilos de pois chiches.
Olivier Hiss, l'un des associés fondateurs.
Au début, tout le monde nous a pris pour des fous, tous les agriculteurs des villages aux alentours. Et en fait, c'est, comment dire, une consommation de l'avenir dans les 10 ans qui viennent déjà. Hein. Faire une nouvelle culture, c'est vrai que ça fait du stress, oui, mais c'est aussi une fierté. Tu te dis, t'as réussi quelque chose parce que les gens, ils viennent vers toi.
À l'autre bout de la chaîne, l'Eurométropole de Strasbourg encourage cette nouvelle filière locale en servant davantage de légumineuses dans les cantines scolaires. L'élu Antoine Neumann est en charge des questions agricoles et alimentaires.
Plus de la moitié de la surface agricole de la métropole de Strasbourg est occupée par du maïs, qui nourrit même pas des animaux. Celui-là, il sert à faire des plats transformés, à faire des biscuits apéritifs, des sodas. On nourrit pas les gens avec ça. Donc il y a un gros enjeu à reproduire des choses qu'on mange et pas des choses pour favoriser le diabète, l'obésité ou des choses comme ça.
Apprendre à aimer les légumineuses, source de protéines, c'est aussi s'ouvrir à une alternative à la viande et ainsi réduire l'empreinte carbone de son assiette.
Un reportage signé Lucille Gimbert. Toujours en France, du foot à présent et cette tempête déclenchée par les déclarations de Pablo Longoria. Samedi dernier, le président de l'Olympique de Marseille s'en est violemment pris à l'arbitrage, insinuant que la Ligue 1 était un championnat corrompu. Et après la levée de bouclier est venu le temps des sanctions. La commission de discipline a suspendu Pablo Longoria pour 15 matchs fermes. Baptiste Leduc du service des sports nous a rejoint pour en parler. Bonjour Baptiste.
Bonjour Karine.
Quelles sont les conséquences de cette suspension ?
Alors ça ne vous aura pas échappé Karine, Pablo Longoria se retrouve rarement sur un terrain balle au pied. Alors on ne peut pas le suspendre de jouer pour l'OM, cela veut-il dire que la commission de discipline de la Ligue interdit désormais au président d'assister au match de son club en tribune? Eh bien même pas. Il peut continuer de se rendre au stade, mais il n'aura plus accès ni au terrain, ni au vestiaire, aux bancs de touche ou au tunnel. Bref, Pablo Longoria redevient un spectateur lambda.
Et ce n'est pas tout, il est également, je cite, suspendu de toute fonction officielle.
Voilà, c'est peut-être là la partie la plus ennuyeuse pour Pablo Longoria sur toute la durée de sa peine. Il ne pourra pas représenter l'OM et cela a une incidence dès ce jeudi. Il ne participera pas au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel prévu aujourd'hui. Une réunion très importante dans le contexte d'une autre crise, celle des droits télé du championnat et des relations parfois conflictuelles avec le principal diffuseur d'Azone.
15 matchs de suspension, cela signifie que la sanction court jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi une telle sévérité ?
Et cela aurait même pu être pire sans ces excuses, mais les propos de Pablo Longoria s'inscrivent dans un contexte de pression mis par l'OM sur les arbitres depuis le début de saison. L'Espagnol a déjà été sanctionné et mis en garde par le Conseil National de l'Éthique, ce qui explique que la commission de discipline ait été plus sévère avec lui qu'avec d'autres présidents ces dernières années. D'ailleurs, le président marseillais a aussi été recadré par la ministre des Sports, Marie Barsac, mardi. Et puis, je le disais, l'OM est coutumier du fait cette saison. Mehdi Benatia, le directeur sportif des Phocéens, est déjà suspendu pour 3 mois. L'ancien international marocain est puni pour son comportement virulent envers un arbitre. Déjà, c'était en Coupe de France contre Lille. Et enfin, Pablo Longoria n'est peut-être pas au bout de ses peines, sans mauvais jeu de mots, puisqu'une plainte des arbitres français via leur syndicat est toujours en cours contre lui.
Baptiste Leduc du service des sports d'RFI. Enfin, un mot dans l'océan Indien. La préfecture de la Réunion prévient que le cyclone Garance est dangereux. L'île française va être placée en alerte cyclonique rouge à partir de ce soir.